faut-il être schizophrène pour enseigner dans l'enseignement catholique ? Bienvenue dans le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Quand on est dans l'enseignement catholique, on est sous une double autorité, celle de l'État laïque avec qui on a un contrat, et puis l'Église catholique qui te confie une mission. Se pose alors la question de la laïcité. Faut-il être schizophrène pour diriger un établissement catholique ? Cette question se pose aussi pour les enseignants. Et la question, je pourrais aussi la traduire autrement, c'est-à-dire est-ce que je dois mettre sous le boisseau ma foi quand je suis du côté de l'État ? Qu'est-ce que mon école a apporté à l'œuvre commune ? Et pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Joseph Hervault, qu'on a déjà rencontré dans l'épisode 25. Il nous avait donné son regard sur le chef d'établissement. Il est adjoint au secrétaire de l'enseignement catholique pour la pastorale, si je ne me trompe pas. Bonjour Joseph.
Non, en fait, je suis. Il n'y a que deux adjoints qui sont Nathalie Tretiakov et puis Yann Diraison, mais je suis dans l'équipe du secrétaire général sur les questions de pastorale scolaire. Voilà, peu importe le titre au fond. Voilà.
Comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, ça va très bien. J'essaie de ne pas être schizophrène, justement. et en fait, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle va bien au-delà de celle qui nous a été posée hein, et auxquelles je vais répondre. Mais on voit bien qu'on a plein de choses dans nos vies. Hein. On est parents, on est chef d'établissement, on est enseignant. Voilà, on a un certain nombre de facettes dans nos existences. Et puis, on a cette impression peut-être quelquefois on est pris en tension entre toutes ces identités, alors que en fait nous sommes des personnes uniques et unifiées, et que tout cela ce sont effectivement des facettes de ce qui fait notre vie unique. Alors je ferais bien ce parallèle-là pour répondre à cette question-là. Faut-il être schizophrène ? Bien évidemment non, mais on comprend qu'il puisse y en avoir la tentation. Quand on regarde un petit peu, on dit, hein, on affirme dans beaucoup de textes qui parlent de l'enseignement catholique et de sa mission, que notre référence et notre raison d'être, c'est l'évangile du Christ. Et alors quand on ouvre cet évangile, on peut tomber sur un passage qui nous dit « Nul ne peut servir de maître ». Ou bien il aimera l'un et détestera l'autre, ou bien l'inverse. Voilà, donc il ne s'agit pas d'essayer... Je pense que d'une certaine façon, cette question-là, même si elle se pose, elle est peut-être mal posée par nous, parce qu'on n'a peut-être pas à choisir. On n'a peut-être pas à choisir, et peut-être qu'on regarde mal aussi, de temps en temps, finalement, notre projet, qui est un projet d'association, de partenariat, entre l'État, effectivement, et puis l'enseignement privé, qui pour nous est catholique, et donc avec cette vision que l'Église a quelque chose à apporter en termes d'éducation. Et ça, c'est l'État qui le reconnaît dans ce régime du contrat d'association, pour dire les choses simplement. Donc la question n'est pas tant d'essayer de mettre notre identité de côté pour collaborer à cette œuvre commune, que d'essayer justement de la mobiliser au service de ces trois œuvres communes, mais de la mobiliser avec ce que nous sommes. Sinon, il n'y a pas d'association. On ne s'associe jamais avec l'identique à soi-même, le soi. Sinon, c'est le même. Il n'y a pas besoin. S'il y a la nécessité, s'il y a la possibilité, en tout cas, d'une association, c'est bien pour que nous puissions apporter au pot commun de ce chantier, de cette grande tâche éducative, eh bien, ce que nous sommes spécifiquement, mais pas pour en faire un communautarisme, mais bien justement pour servir le bien commun de l'ensemble de la société. Mais on va pouvoir développer ça,
oui. Bien sûr. Alors effectivement, un bref rappel sur l'histoire, c'est les lois Jules Ferry hein, dans les années 1880 où l'éducation a été laïcisée hein, avec le rejet des congrégations, de l'enseignement, puis l'obligation d'instruction, la naissance de l'instruction morale et civique versus l'enseignement religieux et qui était dispensé, et puis enfin la laïcisation des enseignants. Et puis 20 ans plus tard, il y a eu encore des lois pour séculariser l'enseignement. En 1901, la loi, bien sûr, sur la liberté d'association qui impose aux congrégations de demander l'autorisation à l'État pour exister. Donc on a fait la chasse aux religieux à cette époque-là. Et puis en 1905, le député Aristide Briand fait voter la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Bien des églises. Voilà, et puis par la suite, il y a eu le contrat d'association qui nous relie avec l'État. Alors, bah justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la posture du chef d'établissement par rapport à ces deux pôles qu'on a devant nous, c'est-à-dire l'État d'un côté et puis l'Église de l'autre, et sur le sujet justement de la laïcité?
Ben oui, alors la laïcité, c'est justement un très très bon exemple, parce que, alors, on voit bien déjà que le mot laïcité, c'est un vrai champ sémantique, hein, que c'est un mot qui a besoin d'être défini à chaque fois presque pour savoir de quoi on parle, puisqu'il y en a un certain nombre de visions, hein, pour la faire courte, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de toute forme d'expression religieuse. Dans l'espace public, voilà, et les limiter, les cantonner à l'espace privé. Donc là, c'est l'exclusion des religions de l'ensemble de la société. Et puis plutôt ce qui va dans le sens des textes de loi, d'ailleurs, qui parlent de la laïcité, ceux que tu nous as rappelés, et qui sont pas du tout dans cette perspective-là, et qui vont plutôt pointer que, effectivement, l'État va être laïque. Du point de vue religieux, ça voudrait dire que l'État sera neutre, qu'il ne sera pas piégé ou asservi par une religion, qui serait une religion d'État, comme ça a pu être le cas, mais qu'en revanche, les citoyens, eux, ne sont absolument pas tenus à une neutralité religieuse, puisque la Constitution, par ailleurs, leur permet, leur autorise, leur reconnaît le droit d'exercer, en privé comme en public, la religion de leur choix. Donc, on voit bien qu'entre l'exclusion du religieux et puis son intégration harmonieuse dans la société, il y a un certain nombre de nuances, et on a besoin de se redire d'où on parle quand on parle de laïcité. Alors, c'est un bon exemple pour ce qui concerne l'articulation, ou en tout cas la capacité qu'a l'enseignement catholique à servir, eh bien, à apporter sa contribution à un projet commun. Parce que si on regarde le fond, surtout ces dernières années, on a vu que l'État souhaitait renforcer finalement sa laïcité, donc étendue aux agents publics de l'État, et donc dans l'enseignement public aux enseignants, pour créer un espace de liberté, pour protéger justement. Eh bien, des influences religieuses qui seraient trop prégnantes ou trop imposantes. On voit bien, on se souvient que derrière, hein, il y a les attentats au terrorisme, il y a l'islam politique qui a un projet qui veut s'imposer par la violence, voilà, par des actes qui sont des actes criminels. Voilà, l'État veut réagir à ça en disant, il faut absolument que, du coup, on protège cette liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà. Et donc, c'est ça que va viser la laïcité de l'État. L'État va s'en donner un moyen qui, pour lui, justement cette mise à distance du religieux. Mais nous, dans l'enseignement catholique, nous ne sommes pas laïcs au sens de neutre religieusement. Mais nous croyons, parce que l'Église en fait grand cas elle aussi, nous croyons qu'il n'y a pas de foi sans liberté. Et que donc, il faut absolument préserver cette liberté de conscience. Hein, donc cette liberté de croire ou de ne pas croire. Alors on voit bien que nous sommes finalement attachés à la même chose, protéger la liberté de croire ou de ne pas croire. Pour l'État, ce sera en mettant à distance le religieux, et pour nous, dans l'enseignement catholique, ce sera au contraire en lui donnant tout son sens. Voilà. Mais tout son sens pour justement faire en sorte que le religieux ne soit pas, hein, dans toute sa complexité, ne soit pas manipulé, utilisé pour de l'exclusion, mais au contraire pour que chaque citoyen qui est déjà potentiellement l'élève, hein, puisse concourir à partir de tout ce qui fait sa vie. Là aussi, il n'y a pas de schizophrénie, hein, à partir de tout ce qui fait sa vie, eh bien, se former pour trouver sa place dans cette société et laisser sa place aussi à chacune et à chacun.
Oui, j'ai effectivement même eu des discussions avec des parents de religion musulmane et me disant au moins dans votre école, on peut parler de religion. Parce que dans l'école où ils étaient, c'était vraiment cette mise à l'écart à distance qui était vraiment pour eux très très violente. Et non pas qui cherchaient à mettre en avant leur religion, mais juste de ne pas pouvoir en parler, en fait, qui les gênait le plus.
Oui, et puis le fait de ne pas pouvoir en parler, eh bien, c'est aussi peut-être le risque de laisser ces questions religieuses qui sont complexes, hein, de les laisser dans une zone finalement où personne n'a prise dessus, où on ne peut pas en faire un objet éducatif. Alors, Il faut être juste hein, avec le rapport de Bray. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont avancé dans une prise de conscience de la nécessité, y compris pour l'État laïque, hein, dans le système éducatif, d'avancer vers ce qu'on a appelé à l'époque une laïcité, passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. Voilà, ne plus ignorer au moins ce qu'on a appelé le ou les faits religieux. Donc, voilà, il y a eu cette avancée-là, il faut le reconnaître, hein, qui s'applique d'ailleurs aussi dans l'enseignement catholique, puisque ça relève des programmes. Comment est-ce qu'on donne une place à la dimension religieuse de la culture? Parce que finalement, que Dieu existe ou qu'il n'existait pas, ou qu'il n'existe pas, en fait, eh bien, il y a des traces dans l'histoire et dans la culture de tous ceux qui croient qu'il existe, et sous les différentes formes que sont les religions. Et ça a voilà, un impact important sur la culture, sur le patrimoine, sur l'art et sur un certain nombre de choses, y compris le droit même. Voilà. Donc comment est-ce qu'on intègre ça? Alors ça, c'est une première avancée. Dans l'enseignement catholique, on peut intégrer encore d'autres dimensions de ce religieux. Je vais prendre un exemple. Voilà, on devient croyant, on appartient à une communauté de croyants, non pas parce qu'on aurait tout lu, tout compris et qu'on aurait adhéré à tout, eh bien parce qu'on va y être porté dans une communauté. Voilà, hein, on devient chrétien, par exemple, par le baptême. Voilà, et on peut être baptisé en ayant quelques mois, ou en ayant 12 ans, ou en ayant 70. Mais en tout cas, ce qui va faire rendre participant d'une communauté, c'est bien un acte liturgique qui est en même temps l'intégration à une communauté. Et on voit bien pour un certain nombre de jeunes qui sont, par exemple, tentés par l'islam radical, ou un islam plus politique. C'est pas un certain nombre de lectures qui vont être déterminants pour eux. C'est bien plutôt la communauté qui est autour d'eux et auquel ils s'agrègent, etc. Voilà, nous avons, nous, dans l'enseignement catholique, la possibilité d'intégrer aussi cette dimension existentielle du religieux, d'en faire un objet éducatif, de pouvoir éduquer à cela et éduquer à travers cela. Voilà, donc c'est bien dans ce sens-là que nous mettons l'ensemble de notre projet bien au service des visées communes de notre pays qui vont contribuer justement à protéger, parce que en l'éclairant, eh bien, cette liberté de croire ou de ne pas croire. Et on pourrait s'en donner plein d'exemples, hein. Nous avons dans l'enseignement catholique des temps de culture chrétienne, des temps de culture religieuse, où on porte un regard aussi qui va au-delà, hein, de l'enseignement des faits religieux sur qu'est-ce que c'est qu'être croyant dans une religion ou dans une autre. Bien souvent d'ailleurs, ça permet de lever des préjugés, des incompréhensions, voilà, au sein d'une même classe, permettre de faire en sorte tout simplement que des élèves de traditions religieuses différentes puissent, qui vivent ensemble dans une même classe, au sein d'une même classe, puissent se parler. Voilà, ça c'est on voit bien que c'est ça que vise finalement l'enseignement catholique, hein, contribuer à partir de ce qu'elle est, à partir de son projet propre, à faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place et tout le monde puisse s'intégrer dans une société, en laissant aussi toute sa place aux autres. Voilà. Et du coup, nous ne mettons pas à distance le religieux, au contraire, nous en faisons sous plein de plein de formes différentes, finalement, autant d'objets éducatifs.
Okay. Alors, tu m'as parlé, en préparant un petit peu cet épisode, qu'il y allait avoir un ouvrage qui allait sortir. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors, ben justement, hein, on est en train de travailler dans l'enseignement catholique à de nouveaux outils. On avait déjà proposé en 2015 de nouveaux outils pour mieux appréhender, alors pour les chefs d'établissement et pour tous les acteurs d'une communauté éducative, en fait, voilà ce que vise et ce que ne vise pas la laïcité, on l'a compris, hein, mise en œuvre dans l'enseignement catholique. Alors, déjà, une chose est claire, c'est que nous ne sommes pas laïcs au sens, je le disais tout à l'heure, au sens où nous serions neutres religieusement. En revanche, ce qui est tout aussi clair, et c'est ce que va développer ce document, c'est comment, j'en ai donné quelques éléments, hein, comment nous contribuons à partir de notre identité propre, donc non pas en la mettant de côté, mais en la mobilisant, à finalement une vie citoyenne pour tous, voilà, dans laquelle nous apportons notre contribution au service public d'éducation. Alors il y aura donc un texte qui va rappeler quelques éléments un petit peu fondamentaux, mais ce ne sera pas très très long, une petite introduction, et puis surtout des fiches pratiques sur des situations touchant à des questions de signes religieux, de pratiques alimentaires, etc. Dans le complément de ce qu'on avait pu faire aussi en 2016-2017, avec un outil qui était un très bon outil, toujours d'actualité, sur lequel peut-être on pourra revenir dans l'un des podcasts de François, qui s'appelait « Éduquer au dialogue ». Voilà, c'est bien ça la visée finalement d'une vie en commun, épanouis, c'est qu'on se parle. Voilà. Ce n'est pas qu'on se cache, ce n'est pas qu'on mette de côté un certain nombre de choses, c'est qu'on puisse voilà, créer de la parole, de la communication. Et ça, bah, c'est un long chemin qui s'apprend et l'école sert aussi à apprendre ce chemin-là. Donc voilà, défi situation, un petit texte d'introduction et puis aussi un dispositif hein, de formation est en train, là, à partir de ce début du mois de mai, de former des formateurs de formateurs qui ensuite seront disponibles dans les communautés éducatives pour venir former tout le monde, les personnels de droit privé ou de droit public, mais au sein d'une communauté éducative, parce que c'est bien là que les choses se jouent.
Parfait.
Et là aussi, il s'agira de créer des conditions pour se parler ensemble, hein, non pas en théorie ou en général, mais bien de notre communauté éducative avec les gens qui y vivent et qui y travaillent.
Merci. Donc pas de schizophrénie, au contraire, on se positionne hein, tout simplement et on apporte ce qu'on est. Dans ce projet de laïcité, enfin pour nourrir le contrat qu'on a avec l'État. Voilà.
Voilà, il y a peut-être deux termes clés qu'on peut se redire hein, en guise de conclusion, c'est que le projet de l'enseignement catholique, c'est de contribuer à une formation intégrale de la personne et que donc une formation intégrale, elle ne met rien de côté. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que cette formation intégrale, elle a une visée, c'est justement l'unification de la personne. Voilà, alors ça vaut pour les élèves, ça vaut aussi pour nous, les adultes, les chefs d'établissement, les enseignants. Voilà, on a besoin aussi de faire en sorte de s'unifier et on a la chance d'avoir un projet qui nous le permet et qui nous permet de faire en sorte que ceux que nous sommes puissent servir aussi à d'autres.
Super. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que ça va permettre aux auditeurs de se lancer dans la mission de chef d'établissement ou de se repositionner dans leur propre mission.
Avec grand plaisir, merci François, et peut-être donc à une prochaine fois pour parler du dialogue.
Du dialogue, c'est noté, ça sera pour la saison 3.
Absolument.
Un grand merci pour ton écoute, je suis François Jourdain, chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Abonne-toi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, sur la plateforme de ton choix, si ce n'est pas encore fait, je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.